Alors, pour faire le plein de vitamines, je reçois notre premier invité, le docteur Frédéric Saldemann, auteur de « On n'est jamais mieux soigné que par soi-même ». Bonjour, docteur Saldemann.
Bonjour, très heureux d'être avec vous.
Absolument, nous aussi. Vous savez que vous êtes notre première invitée à qui l'on parle outre-mer.
Eh bien, écoutez, j'en suis très fier et je rêverais d'être complètement avec vous.
Oui, ça serait vraiment plus agréable parce que vous savez que ce n'est pas la même chose de ne pas pouvoir se voir dans les yeux quand on se parle.
Oh, c'est très frustrant. Hein. On a besoin de sentir, d'écouter, de voir, de se toucher. C'est ça qui manque. Hein.
Ben, en fait, vous me lancez très bien dans ma première question parce que je voulais vous parler des trucs pour se munir pour la COVID. Et là, vous parlez de sentir. Et j'ai cru comprendre que la perte de l'odorat et du goût font partie des symptômes qui perdurent chez beaucoup de personnes. Et en lisant votre livre, je me suis rendu compte à quel point ces sens-là sont reliés à la santé beaucoup plus simplement qu'au plaisir gastronomique. Alors, j'ai envie de vous entendre là-dessus.
Oui, effectivement, dans le cas du COVID, on a le problème que beaucoup de personnes perdent l'odorat et pendant parfois des périodes assez longues. Alors, c'est pas seulement une question de goût. On a découvert, par exemple, il y a quelques années, que dans les accidents de moto, il y a souvent le nerf olfactif qui est sectionné par la lame criblée d'ethmoïde dans le cerveau. Et ça provoque une perte définitive de l'odorat et ça occasionne beaucoup de syndromes dépressifs. Donc, ça déprime. Et d'autre part, il y a des liens importants entre odorat et sexualité, puisqu'il y a une maladie qui s'appelle la maladie de Karman et Mercier, où c'est des enfants qui naissent avec des tout petits testicules et pratiquement pas de lobe olfactif. On s'est aperçu que c'est très, très lié et que beaucoup d'odeurs sont des déclencheurs au niveau de la libido.
Ah ben, donc, absolument. Puis toute la nostalgie aussi, c'est très puissant comme sens.
Voilà, c'est pour ça que Napoléon disait à Joséphine, « J'arrive dans 15 jours, surtout te lave pas.
» Ouais, je pensais pas qu'on irait là. Ouais, mais l'odeur, ouais, c'est assez puissant. Mais j'étais intéressée à savoir comment, justement, y a-t-il une manière de se prémunir là, pour ne pas perdre ces sens-là? Je vous écoute sur certains conseils là, pour s'assurer que notre système immunitaire demeure fort.
Alors effectivement, on parle beaucoup des gestes barrières, de se laver les mains, de ne pas se serrer la main. Mais il y a le geste barrière le plus important pour moi, c'est notre immunité. C'est notre bouclier. Plus on avance en âge, plus notre immunité diminue. Pas seulement pour se protéger du Covid, mais pour aussi, vous savez, à chaque seconde, on produit des 20 millions de cellules. Tous les jours, on produit des cellules cancéreuses et c'est notre cellule immunitaire qui fait le ménage. Donc, il n'y a pas de médicament aujourd'hui pour renforcer l'immunité, qui commence à diminuer dès l'âge de 19 ans. Donc, comment on peut augmenter cette immunité? Ben, y a des moyens. Le premier, c'est l'activité physique quotidienne. Si vous faites 30 minutes d'exercice physique par jour, sans vous arrêter, eh bien vous diminuez de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire.
Ah, c'est gros, ça, hein? C'est toute une statistique.
Et si vous faites 40 minutes, les chercheurs américains ont découvert qu'on sécrète une enzyme qu'on appelle ECSOD, qui est anti-COVID. Donc, en fait, il faut tous les jours faire de l'exercice parce qu'on sécrète 1004 molécules protectrices, on augmente notre immunité, mais ça ne dure que 24 heures. Autrement dit, les gens, quand ils me disent « moi, je fais du sport que le week-end », je leur dis « écoutez, tant que vous y êtes, lavez-vous les dents que le week-end ». Vous savez, il y en a d'autres qui me disent « j'ai pas le temps ». Je dis « c'est taratata, c'est pas vrai ». Je suis sûr que vous passez au moins tous les jours, au moins une demi-heure, au téléphone, mail, SMS, coup de fil, courriel, tout ce que vous voulez, faites-le sur un vélo d'appartement.
Oui, c'est une bonne idée. Puis vous avez, je crois, un truc que, en tout cas, que moi, j'ai décidé d'adopter avec les haltères.
Ah oui, c'est très important parce que faire des 30 minutes d'haltère, ben, c'est exactement comme faire 30 minutes de vélo. Et si vous savez, ça évite aussi d'avoir des bras qu'on appelle chauve-souris. C'est pas beau du tout.
Ben, ça, c'est un... Cette fameuse chauve-souris-là, elle ne nous a pas aidé avec la COVID. Donc, non, on n'a pas envie d'avoir des bras en chauve-souris. Mais vous dites que c'est révélateur au niveau de la masse musculaire, les bras.
Ah oui, c'est très révélateur parce que, vous savez, on perd 1 à 2% de muscles par an. Et si on ne fait rien, à un moment donné, le corps, ben, il devient tout flasque. C'est pas bon du tout. Donc, l'exercice physique quotidien, c'est votre première arme pour lutter contre la COVID. Il y a un deuxième élément sur lequel j'insiste beaucoup, c'est le jeûne séquentiel. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeûne séquentiel? Pendant 14 à 16 heures, s'il n'y a pas de contre-indication du médecin traitant, vous arrêtez de manger, vous buvez de l'eau, du thé, des tisanes, sans sucre, sans édulcorant, vous pouvez même prendre un peu de café. Autrement dit, vous passez à 2 repas au lieu de 3. Comme je le disais, à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes, mais le risque d'errant de copie augmentant avec l'âge augmente les risques, par exemple, de cancer. Eh bien, quand on pratique ce jeûne, on renforce son ADN, il y a moins d'erreurs de copie, moins de cancer, on est le teint plus clair, moins d'asthme, moins d'allergies, moins de rhumatisme, plus de tonus. En fait, on lutte contre notre obsolescence programmée. On laisse au corps le temps de régénérer, de se réparer. D'ailleurs, vous savez, toutes les religions du monde, depuis le début de l'humanité, parlent du jeûne comme un message du fond de la nuit des temps, comme pour réactiver une mémoire biologique ancienne. Eh bien, vous savez, digérer, c'est pas rien, c'est faire travailler une dizaine d'organes, le foie, les reins, des hormones, des enzymes. Eh bien, si on fait travailler cette usine sans arrêt, eh bien, à un moment donné, elle s'use trop vite. C'est comme si dans une vie, on avait un nombre de repas limité à prendre. Et il y a eu des grosses recherches sur ce jeûne séquentiel, à pratiquer, je le répète, tous les jours. Eh bien, on a découvert que ça booste notre système immunitaire. C'est un Nobel japonais qui a trouvé ça de façon considérable par le biais de l'autophagie. C'est une façon d'éliminer les cellules malades qui génèrent des maladies. On augmente l'hormone de croissance anti-vieillissement jusqu'à 3000%. Et une molécule qu'on appelle BDNF qui fait qu'on pense plus rapide, on a une meilleure mémoire et on a une meilleure humeur.
Mais concrètement, donc, on fait sauter le déjeuner, le souper, comment
alors,
on fait
vous
ça?
Vous faites sauter le repas que vous voulez. Pour ma part, je fais sauter tous les jours le petit déjeuner. J'arrête de dîner à 21h, je déjeune à 13h. Eh bien, le matin, je bois beaucoup de thé vert, un petit peu de café, et puis voilà. Vous savez, il faut se mettre à table. Si on a faim, pas se mettre à table parce qu'il faut. Aujourd'hui, au Canada, on ne meurt pas de faim ou de carence, on meurt d'excès.
Donc, en fait, j'aurais envie de faire un petit crochet à nos voisins du Sud. Je pense qu'il y a des cas d'obésité qui sont encore plus dramatiques aux États-Unis.
Oh là là, là là, vous savez, j'étais professeur de nutrition là-bas. Je peux vous dire qu'il y a du boulot.
Vous ne manquerez pas de travail. Avant qu'on poursuive sur ce thème-là, parce qu'il va y avoir une petite pièce qui va séparer notre entretien, j'ai vu dans votre livre que vous nous proposez un défi avec la musique. J'ai envie de vous entendre là-dessus.
Oui, vous savez, de la musique, c'est aussi important parce que ça permet avant tout de baisser le stress aussi. C'est une chose importante. Le stress fait qu'on produit du cortisol, on s'use de l'intérieur trop vite. Et la musique permet justement de se détendre. C'est comme de chanter, ça fait beaucoup de bien. Également, avec la musique, on peut parler tout seul, ce que faisait Albert Einstein, et ça détend également. Donc, faut pas hésiter à utiliser la musique comme une voie de relaxation aussi. C'est très important.
Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, puis là, je vous dis, je vais vous prendre vraiment au mot, là. Vous avez parlé d'écouter des chansons qu'on ne connaît pas.
Oui. Il ne faut surtout pas écouter tout le temps la même chose, parce que ce qui fait du bien au cerveau, c'est de faire tout le temps des expériences différentes. N'allez pas tous les ans au même endroit en vacances, goûtez des cuisines, appelez, apprenez une langue étrangère, un instrument de musique, des musiques que vous connaissez pas. Parce que avant, on pensait que le cerveau, on essaie qu'un stock de neurones et à la fin, on devenait gâteux. C'est pas vrai. Si on fait tout le temps des choses nouvelles, on augmente notre capacité cérébrale. Vous savez, aujourd'hui, si je vous fais un IRM pour mesurer la taille du cerveau, pendant 3 mois, vous apprenez à jongler pour rentrer dans un cirque. Pendant 3 mois, je refais un IRM, on s'aperçoit qu'une zone du cerveau nouvelle s'est créée. Donc, si vous ne voulez pas perdre en mémoire, en intelligence, en permanence, mettez-vous un peu en danger et apprenez des choses nouvelles et écoutez aussi des musiques que vous ne connaissez pas.
Alors, je vous mets au défi. Est-ce que vous connaissez Feu de bois de Damso?
Non, mais je suis ravie de découvrir.
Vous allez voir, pour nos auditeurs, là, c'est un bon test pour votre mémoire. Je vous explique comment j'ai appris cette chanson-là. Nous sommes de retour avec le Dr Frédéric Saldman et c'était la pièce « Feu de bois » de Damso. Alors, Dr Saldman, comment avez-vous trouvé mon petit défi?
Mais écoutez, en tous les cas, les paroles sont osées, hein, ça réveille.
Ben écoutez,
donc, c'est coquin. Hein?
Ben, savez-vous, c'est quoi le plus drôle? C'est que c'est mon fils de 17 ans qui m'a fait connaître cette chanson-là. Il l'écoute compulsivement dans la voiture parce que pour lui, c'est un défi justement d'apprentissage et de mémorisation. Et chez les jeunes, cette chanson-là est un challenge, en fait, même un peu dans le style des challenges TikTok. Mais on voit plusieurs jeunes qui se filment à essayer d'apprendre cette chanson-là. Donc, si je suis bien vos propos, là, ils sont en train de faire travailler leur mémoire.
Ah ben ça, pour la faire travailler, ils la font travailler, mais moi, j'oserais pas la chanter à mes patients pour l'instant.
C'est bon. J'ai envie de vous relancer un petit peu sur l'aspect du jeûne. J'ai en effet lu beaucoup là-dessus et pour être franche, j'ai tenté ça hier soir et mon Dieu, j'avais mal à la tête. D'habitude, je déjeune tôt avant de faire mon exercice. Et là, dans votre livre, on suggère aussi de faire l'exercice sans avoir mangé, mais là, j'avais mal à la tête.
Alors, est-ce que vous avez pensé à bien vous hydrater avant?
Ben, j'ai toujours ma bouteille d'eau bleue.
Mais de prendre beaucoup d'eau avant, de peut-être très bien hydrater.
Donc,
vous y avez pensé?
Oui. Je veux vous faire parler un petit peu sur... parce qu'il y a peut-être des auditeurs. Je sais que c'est un sujet qui est sujet à controverse, l'aspect du jeûne. Je pense que vous, abondamment dans votre livre, vous parlez des bienfaits. Mais c'est ça, il y a peut-être des gens qui vont dire « Oui, mais en même temps, on nous dit toujours de manger nos 3 repas. » Donc, en quoi cette idée-là de jeûne vient un peu bousculer cette idée reçue des 3 repas?
Si vous voulez, les 3 repas, ça fait plaisir à l'industrie agroalimentaire parce que ça fait manger beaucoup. Mais globalement, vous savez, nos ancêtres, ils étaient à 1 ou 2 repas. 3, c'est pas possible. C'est beaucoup trop de gérer 3 repas. Donc, vous savez, il faut agir avec bon sens. Essayez de passer à 2 repas au lieu de 3 et regardez comment vous vous sentez. Vous savez, souvent, après un repas, on est fatigué parce que l'énergie, elle est utilisée pour digérer, au lieu d'être pour se réparer, pour avoir un cerveau en meilleur fonctionnement. Donc faites l'essai, il ne s'agit pas de jeûne qui dépasse 16 heures, mais écoutez avec bon sens votre corps comment vous vous sentez en étant bien hydraté. Si vous ne vous sentez pas bien, laissez tomber, mais l'expérience de médecin m'a montré que dans 9 cas sur 10, les gens vont beaucoup mieux. Beaucoup se mettent à table parce que c'est l'heure, parce qu'il faut manger. Ils n'ont pas faim. Et justement, ce Nobel japonais a découvert que quand on a faim, on sécrète un peu de gréline, l'hormone de l'appétit, qui stimule notre système immunitaire de défense. Donc, en définitive, faites l'essai. Si vous sentez que ça ne va pas, eh bien, recommencez à prendre 3 ou 4 repas si vous voulez. Mais si vous sentez bien, continuez parce que vous gagnerez des années de vie en bonne santé.
Bon, mais je vous en redonnerai des nouvelles. Un autre, quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, c'est quand vous parlez d'éviter certaines situations qui se mettent à accélérer le temps. Par exemple, de ne pas conserver des photos de nous ou de proches de moins de 5 ans, qui datent de plus de 5 ans.
Oui, parce que sinon, vous avez une impression que le temps s'accélère. Vous savez, quand on regarde des vieux films à la télévision, on a l'impression que le temps va trop vite parce que d'un seul coup, c'est projeté dans le présent. Si vous mettez chez vous des photos anciennes, vous dites à chaque fois, ben disons, qu'est-ce que j'ai vieilli vite? C'est pas terrible, il faut des photos de maintenant. Si on projette trop le passé, le temps s'accélère et c'est franchement déprimant.
Donc, tous ces challenges-là sur Facebook, là, de photos quand on est petit ou les gens qui partagent les photos de leur enfant quand ils étaient petits, à chaque fois, je vois des petites larmes. Les gens disent « Ah, oh, le temps a passé vite ». Donc, peut-être c'est une nostalgie qui nous fait du bien, mais finalement nous fait du tort.
On a besoin de bonnes nouvelles, de choses positives. Vous savez, les optimistes vivent plus longtemps que les pessimistes. Donc, il faut absolument... La joie de vivre, la bonne humeur, ça fait un bien fou.
Un autre
conseil. Et en même temps, s'agiter.
Un autre conseil que vous. Ah, on est désynchronisé, on va repartir ça.
Oui, allez-y.
Un autre conseil que vous avez publié dans votre. En fait, dont vous parlez, c'est de ne pas écouter trop les nouvelles. Et là, je peux vous dire que c'est très, très actuel. Il y a des gens qui sont scotchés aux nouvelles sans arrêt là, sur les cas de COVID et autres. Moi, j'ai comme décidé de m'en distancer un peu, même si je fais carrière dans le domaine des communications, parce que j'avais effectivement l'impression que ça me déprimait.
Ben oui, parce que si vous voulez, la bonne santé, c'est d'être de bonne humeur. Et alors moi, je suis comme vous, je n'écoute plus les informations parce que c'est une boîte de mauvaises nouvelles. Donc, c'est vraiment pas utile. Tous les matins, une minute, je regarde sur le net ce qui s'est passé et je m'arrête là pour la journée. Mais écoutez, en boucle des choses tristes, pleines d'anxiété, j'ai pas envie de m'abîmer la santé.
Et
ça sert à rien du tout.
Ben vous avez tout à fait raison. Je pense qu'on produit ici à Canalem tellement d'émissions qui sont bonnes pour le moral que j'ai envie de dire aux auditeurs, si vous avez manqué de stimulation, écoutez nos émissions et bien sûr, lisez le livre de Dr. Salman.
Exactement, et vous serez en pleine forme.
Dites-moi, avant qu'on se quitte, peut-être d'autres petits conseils là, pour bien passer au travers. Je vous relance sur l'histoire des haltères parce que vous l'associez à quand vous êtes assis à votre bureau et quand vous vous levez.
Oui, si vous voulez, globalement, c'est très simple. Le mouvement, c'est ce qui me maintient en bonne santé. Et tous les mouvements sont bons. Einstein disait, la vie, c'est comme la bicyclette. On arrête de pédaler, on tombe. Que ce soit pour notre cerveau, en 3 semaines de vacances, on perd 20 points de quotient intellectuel. C'est beaucoup. On est comme des montres automatiques. On se recharge dans le mouvement. Si je plate vos deux jambes pendant un mois, quand je casse le plat, vous tombez par terre, il n'y a plus de muscles. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre toutes les occasions. Vous êtes au bureau. Moi, à mon bureau, j'ai des haltères et toutes les heures, je fais des mouvements. Je me lève. Mais le mouvement, c'est la vie, c'est ce qui permet d'éviter tellement de maladies. Et on sait que les gens qui restent plus de 4 heures assis augmentent leur risque de cancer colique et de diabète.
Donc, est-ce qu'on peut se mettre justement des petits rappels sur des montres ou sur notre téléphone, de se lever à, par exemple, une fois par heure, de faire certains exercices?
Il y a déjà une bonne chose. Si vous pensez à boire beaucoup, vous irez faire pipi beaucoup et du coup, vous vous levez.
C'est une bonne idée, hein? Ça devient tout un cycle.
Et voilà, et moi, quand je me lève pour aller faire pipi, j'en profite pour faire des haltères.
Un dernier conseil avant de se laisser, Dr. Salman?
Dernier conseil, je dirais, j'ai parlé du jeûne, mais je parle aussi des calories. Vous savez, 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus.
Excellent. Donc, c'est une belle statistique. Donc, je vais inviter nos auditeurs à vous suivre sur Internet. On va passer à la deuxième demi-heure de l'émission bientôt. Alors, de tout cœur, merci d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait très plaisir.